Bonjour à tous. Donc je suis responsable d'équipe mobile oncogériatrique et je vais vous présenter un petit peu comment se passe l'organisation d'une unité de coordination d'oncogériatrie telle qu'elle a été créée en 2007 à Bordeaux. Donc tout d'abord une petite introduction pour vous rappeler quelques faits que vous connaissez tous. Pourquoi s'intéresser à l'oncogériatrie? Tout simplement, on le sait tous, la population est vieillissante et le cancer concerne essentiellement les patients âgés. 60% des cancers surviennent après 65 ans, avec une prédominance des cancers digestifs, des hémopathies et des cancers urologiques et sénologiques. Donc le cancer, c'est un fait et ça concerne aussi énormément les personnes âgées, d'où la complexité de cette prise en charge, parce que les sujets âgés, c'est une population hétérogène et qu'il va falloir étudier, évaluer, apprécier pour pouvoir prendre des décisions de traitement les mieux adaptées. Je vous avais juste mis une petite photo pour vous montrer que au siècle dernier, les centenaires étaient relativement peu nombreux. Là, on a 80 ans qui, même 100 ans qui séparent ces deux photos. C'est Jeanne Calment que vous avez tous reconnu, notre doyenne, lorsqu'elle avait 20 ans et quelques années avant son décès. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une petite fille sur deux qui est née en 2000 qui sera centenaire. Donc c'est important de se rendre compte de cette réalité. Ce qui change avec l'âge, comme je vous le disais, c'est une population hétérogène qui va présenter des modifications des grandes fonctions vitales et qu'il va falloir évaluer avec une modification de la résistance au stress. On est dans un contexte particulier, le sujet âgé est vieillissant, présente un certain nombre de comorbidités, dont des comorbidités cardiovasculaires qui sont prédominantes, des modifications au niveau de l'état nutritionnel, de la mobilité. Il présente également un risque de chute important. On observe également des troubles cognitifs, tels que la maladie d'Alzheimer qui est prédominante chez cette population âgée, des troubles thymiques et une situation sociale parfois difficile à résoudre avec un veuvage, un isolement social, des enfants absents et une perte d'autonomie qui ne permet pas un maintien à domicile. Donc tous ces facteurs, il va falloir les évaluer et bien les comprendre et les connaître en plus de l'évaluation physiologique pour pouvoir prendre des décisions adaptées dans le contexte de cancer. L'intérêt de l'évaluation du sujet âgé, en fait, elle nous a été un petit peu orientée, imposée par le plan cancer 2005-2007. C'est l'Institut national du cancer, l'INCa, qui, par la mesure 38, nous a demandé de mieux adapter les modes de prise en charge et les traitements spécifiques au sujet âgé. Auparavant, nos collègues oncologues, radiothérapeutes prenaient déjà en charge un certain nombre de patients âgés de façon adaptée, mais peut-être sans spécifiquement étudier tous ces critères propres au sujet âgé, les comorbidités, les troubles nutritionnels, etc. Donc il a fallu qu'on s'organise pour créer des évaluations et créer une coordination de spécialistes, oncologues, gériatres, médecins traitants pour pouvoir adapter au mieux ces traitements. Donc l'INCa, en deux ans, en 2006 et 2007, a labellisé 15 unités pilotes de coordination d'oncogériatrie sur le plan national. Donc ces équipes, vous les voyez là, je vous ai mis une carte, Bordeaux a été labellisée, il y a l'équipe de Rouen, Paris, Clermont-Ferrand, Lyon, il y en a plusieurs dans l'Île-de-France. Donc elles travaillent toutes de façon indépendante, on travaille aussi ensemble sur des projets de recherche clinique, mais on a tous une spécificité d'organisation. Certains fonctionnent en équipe mobile, d'autres fonctionnent en consultation, et ça permet d'avoir un vrai partenariat gériatre et oncologue sur ces différents sites. Ça, c'était la labellisation des 15 unités pilotes de coordination en 2007. Et chaque année, les UPCOG rendent un état des lieux, un rapport d'activité à l'INCa qui permet d'avoir des financements pérennisés pour certains et créer des vraies équipes qui peuvent poursuivre l'activité. Les missions qui nous étaient demandées par l'INCa à l'époque, c'était, comme je vous l'ai dit, une aide à la décision thérapeutique, une aide à apporter aux chirurgiens, aux oncologues, aux radiothérapeutes pour prendre des décisions très spécifiques, évaluer les patients âgés les plus fragiles. C'est vrai que les patients âgés, comme je vous le disais, c'est une population hétérogène. Donc on a des patients à 80 ans ou 85 ans qui sont tout à fait vigoureux, qui sont chez eux, qui vivent à domicile sans difficulté. et qui ont peu de comorbidités, qui prennent peu de traitements, ce n'est pas ceux-là qui nous poseront le plus de problèmes. Les plus fragiles et les moins vigoureux, ce sont ceux-là qui vont nous poser des difficultés de prise de décision et d'accompagnement au cours des traitements. Donc il va falloir les évaluer de façon bien spécifique pour pouvoir prendre la meilleure décision. On nous a demandé également de déterminer des facteurs prédictifs de survie, de survenue de toxicité pour éviter le maximum de complications lors des traitements, de mettre en place des interventions avec l'aide des soins de support qu'on appelle, c'est les diététiciennes, les aides sociales, les psychologues, et d'écrire des référentiels spécifiques pour la prise en charge dans un certain type de cancer digestif, hémopathie, etc. Les référentiels ne sont pas encore tous écrits. On est au début de cette rédaction. C'est un travail difficile. En plus de cette aide à la prise en charge des personnes âgées vraiment très clinique, il y a des protocoles de recherche clinique qui sont partagés entre les UPCOG. Et on a aussi un travail d'enseignement, formation et d'information auprès des médecins, des soignants et du public, ce qui n'est pas encore vraiment réalisé auprès du public, si ce n'est en consultation ou en entretien individualisé. Pour bien mener l'évaluation de ces sujets âgés, il faut connaître la pathologie, le cancer, bien évidemment, l'âge chronologique du patient, le vrai désir du patient, est-ce que le patient a envie d'être traité, suivant quelle modalité, quelles sont les conséquences, les risques. Toutes ces questions nous sont posées, donc il va bien falloir l'évaluer. Il y a également l'état physique, fonctionnel, mental, thymique, l'autonomie et la motivation qui sont des paramètres tout aussi importants que l'évaluation du cancer et de l'espérance de vie du patient. Donc c'est un certain nombre de paramètres importants qu'il va falloir évaluer, physiologique, global par rapport à la personne âgée comme telle que je vous l'ai présentée, et tout ça dans un contexte très particulier qui est le cancer. On va donc intervenir, comme je vous l'ai dit, en tant qu'équipe mobile. C'est organisé comme ça à Bordeaux depuis 2007. C'est une équipe mobile qui intervient dans différents services, composée d'un médecin, d'une infirmière et une secrétaire mi-temps qui nous aide à organiser cette activité. Donc on intervient dans les services d'oncologie, de radiothérapie et de chirurgie, et plus spécifiquement dans les services d'onco-hématologie, gastro-entérologie, dermatologie, médecine interne, ORL et gynécologie. Donc l'urologie, par exemple, n'apparaît pas parce qu'on a quelques liens, mais on n'a pas encore vraiment travaillé pour fidéliser davantage notre réseau et pouvoir espérer avoir davantage de patients. C'est compliqué, on intervient aussi bien sur l'Institut Bergonier que sur les trois sites du CHU. Ça veut dire qu'il va falloir avoir une disponibilité d'organisation pour être aussi bien sur l'Institut Bergonier que sur Pellegrin, Saint-André ou Olévêque. Donc ça reste quand même une organisation compliquée. L'organisation, en fait, c'est celle d'une équipe mobile. La demande d'évaluation vient des praticiens, des soignants, ou provient des réunions de concertation pluridisciplinaire d'oncologie gériatrique, d'oncologie ou des différentes RCP d'oncologie, ou des différentes réunions de services. Donc la demande est traitée par le secrétariat qui transmet cette demande à l'équipe mobile et qui va sur place, lors d'une consultation ou au lit du patient, réaliser une évaluation globale. Et les informations sont transmises au médecin référent qui nous a adressé le patient ou également au médecin généraliste pour que la décision soit discutée également avec lui. Donc comme je vous disais, c'est une équipe mobile qui intervient sur deux sites. C'est le choix qu'on a fait à Bordeaux pour pouvoir partager des expériences et puis travailler avec des praticiens qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble sur les deux sites. Donc on travaille également en coordination bien évidemment avec les soins de support qui sont, comme je vous l'ai dit, diététiciens, psychologues, assistantes sociales et les équipes mobiles de soins palliatifs qui, elles, peuvent sortir des institutions et interviennent dans également les maisons de retraite et qui aident aussi les patients dans ce type de prise en charge. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une prise en charge commune des différents professionnels de soins, oncologues, gériatres, médecins traitants, soignants, pour proposer aux patients une thérapeutique adaptée à son âge, à son état physiologique, à son état pathologique, choisir la meilleure thérapeutique adaptée pour éviter le maximum de toxicité et avoir des résultats quand même bénéfiques par rapport à la prise en charge du cancer et surtout en préservant la qualité de vie du patient. préserver la qualité de vie, c'est essayer de garder le patient au maximum à son domicile, si c'est possible. Parce qu'effectivement, si le patient est au domicile et qu'après une chirurgie pour un cancer, il se retrouve en maison de retraite ou dans une institution qu'il n'a pas choisie, on peut se reposer la question, est-ce qu'on a vraiment fait un choix judicieux en proposant une chirurgie, sachant que la qualité de vie est altérée, que ce n'était pas initialement le choix du patient de se retrouver en institution en post-chirurgie. Donc là est la vraie question, qu'est-ce que c'est qu'une qualité de vie pour un patient? Et c'est très, très individuel par rapport à chacun. Donc l'évaluation globale, c'est celle qu'on fait en équipe mobile gériatrique, de comorbidité, statut nutritionnel, dépendance, vie sociale, médicaments, thymie, cognition, équilibre et marche, fonction sensorielle. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est fait également par une infirmière qui est formée à l'oncologie gériatrique. Et les consultations durent environ une heure. Et ça nous permet d'avoir une photographie un peu fouillée, approfondie du patient âgé qui va être rapportée au médecin référent. Et ensuite, on pourra discuter du traitement le plus adapté. Comme je vous l'ai dit, c'est une approche globale, multidisciplinaire, multidimensionnelle, où tous les acteurs interviennent pour donner leur avis, aussi bien le médecin traitant que l'infirmière, l'oncologue, le chirurgien, le gériatre et les soins de support qui participent à la décision et bien évidemment le sujet âgé qui sera bien impliqué également dans la décision de traitement qui lui sera proposée. L'évaluation, c'est donc la photographie gériatrique pour dépister les patients à risque. Les patients les plus vigoureux ne sont pas ceux qui nous posent le plus de problèmes. Ce sont vraiment les patients à risque, les plus fragiles, qui vont poser des problèmes de survenue de toxicité ou de perte d'autonomie et qui vont perdre une qualité de vie suite au traitement. Cette évaluation va permettre de mettre en place des interventions qui n'ont pas été dépistées auparavant. Par exemple, un patient qu'on peut voir, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de dépister des patients qui avaient des démences, qui étaient chez eux, débutantes ou des démences modérées de type maladie d'Alzheimer, qui n'avaient jamais été dépistées parce que le patient était bien chez lui et qu'il avait trouvé un équilibre. Et finalement, quand le cancer intervient et survient, donc on est obligé d'évaluer globalement et de tenir compte de ces dysfonctionnements. Et la démence est bien évidemment un critère important qui va être un facteur essentiel dans la prise de décision, puisqu'on n'aura pas forcément une réponse au traitement identique à un patient qui n'est pas dément, et on aura surtout des conséquences importantes par rapport à peut-être la perte d'autonomie, la survenue d'un syndrome dépressif et une aggravation des troubles cognitifs. Donc c'est important ce dépistage. Donc l'évaluation, elle est faite grâce à des tests qui sont validés, qui sont utilisés de façon courante par les gériatres. Le MNA pour l'état nutritionnel, les échelles d'évaluation d'autonomie, l'évaluation sociale, l'évaluation cognitive, le MMS, et l'évaluation thymique réalisée par la GDS. On fait également une évaluation des comorbidités, des syndromes gériatriques et des thérapeutiques médicamenteuses. Tout ça, comme je vous l'ai dit, ça nécessite un certain temps, une disponibilité, au minimum une heure d'évaluation. Suite à cette évaluation, on propose un plan de soins personnalisé pour les patients avec des interventions sociales, psychologiques, diététiques et physiques en partenariat avec les soins de support si nécessaire. C'est assez fréquent. Il y a peu de patients les patients qui ne disposent pas d'un minimum d'intervention sont peu nombreux. Enfin, c'est, en général, on fait un certain nombre d'interventions aussi par prévention. On sait qu'un patient dénutri, avant traitement, l'état nutritionnel va probablement s'aggraver, donc on a nécessité de le mettre dans le faire participer à cette prise en charge nutritionnelle et de le présenter rapidement au diététicien. Alors notre activité, comme je vous l'ai dit, elle est régionale, puisque effectivement on est l'UPCOG est né à Bordeaux, mais on travaille également en région avec Bayonne, Pau, Périgueux, Libourne, Mont-de-Marsan, Villeneuve-sur-Lot. Donc on a des petites unités, il existe des petites unités qui travaillent en binôme gériatre et oncologue dans ces différentes villes avec lesquelles on travaille en partenariat de façon plus ou moins évidente. C'est pas toujours facile de communiquer, de se retrouver, de se réunir. mais l'organisation est régionale. C'est le propre de l'organisation de l'UPECOG de Bordeaux. Donc on a voulu faire cette organisation régionale. Donc je voulais juste vous montrer quelques chiffres pour vous montrer un petit peu comment on travaille. L'activité donc de 2007 à 2010, pour que vous voyez un petit peu comment ça s'organise. En 2007, on avait environ 300 consultations réalisées. 2010, on est à 450. On a quand même une prédominance de femmes. Ce sont essentiellement des femmes. Avec, entre le premier tableau 2007 et 2010, on a quand même des patients relativement âgés. L'âge se situant entre 75 et 85 ans pour la plupart des patients qu'on prend en charge. Donc ce sont des patients quand même assez âgés. On a quelques patients au-delà de 90 ans qui sont traités, évalués, traités, et la doyenne, elle avait 101 ans. Donc on a quand même des patients aussi très âgés, ce qui est relativement rare, mais pour que vous vous rendiez compte qu'on n'a pas que des patients de 70 ans ou 75 ans, on a aussi des patients très âgés. La plupart des cancers qui nous sont... des patients qui présentent des cancers, ce sont des cancers de type digestif, hémopathie, cancer du sein. Donc entre 2007 et 2010, on retrouve à peu près le même pourcentage. Des trois principaux cancers prédominants, digestif, sein et hématologie. C'est dû aussi à l'activité et le partenariat qu'on a décidé de développer avec certains oncologues qui sont plus orientés vers la gériatrie que d'autres, hein, donc en particulier les hématologues et les médecins digestifs ou les sénologues. Après, il y a aussi un partenariat qui existe avec les médecins ORL, mais il est moins important, alors qu'il y a quand même aussi des patients âgés en ORL et dans d'autres spécialités, mais ça explique un peu ces chiffres aujourd'hui. Les consultations en fait qui sont demandées, ce sont des consultations d'évaluation gériatrique globale avant traitement. Et comme je vous disais, on réalise un certain nombre d'interventions, en particulier nutritionnelles, puisque la nutrition, c'est quand même un facteur essentiel qui va orienter le choix de la thérapeutique et l'accompagnement du patient qui sera fait au cours de son traitement. Et un patient dénutri avant traitement aura plus de difficultés pour répondre au traitement et puis pour pouvoir se maintenir dans un état nutritionnel correct. On a également une activité de recherche, donc je pense qu'on va vous en reparler plus précisément lors des prochaines communications. Donc à Bordeaux, on a fait beaucoup de recherches cliniques en oncogériatrie. On a eu plusieurs PHRC, PHRC 2006, INOGAD, intervention nutritionnelle en oncogériatrie chez des patients à risque de dénutrition. C'est un PHRC de Mme Bourdel-Marchasson qui est terminé, qui a montré effectivement que la dénutrition était un facteur important qu'il fallait prendre en charge très très précocement pour pouvoir proposer des traitements adaptés. On a un autre protocole de recherche chez le patient qui présente un lymphome. Ce sont des patients qui sont initialement fragiles. Donc cet essai est mené à l'Institut Bergogni et par le professeur Soubéran. On a un autre protocole dont on va vous parler de façon plus approfondie, qui est le protocole oncodage, qui est une validation d'un outil de dépistage gériatrique. Un projet de l'INCa qui a été lancé en 2007. On a un protocole Sépafiri aussi, et c'est thérapeutique chez les sujets âgés présentant un cancer de l'estomac. Et on participe à d'autres essais thérapeutiques au niveau national. Donc il y a une grosse activité de recherche clinique sur Bordeaux. Il y a encore d'autres essais à mettre en place, mais c'est aussi une activité très importante. Donc je voulais insister sur le fait que l'oncogériatrie, c'est une dimension clinique, une dimension de recherche, une dimension de formation qui existe au niveau national. C'est propre à la France. Hein. L'INCa a décidé d'organiser les UPCOG. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Donc on en est assez fiers. Dans d'autres pays, ils ont des unités qui existent de façon isolée dans certaines villes. En France, ça existe dans minimum 15 villes. Et l'INCa a proposé un nouvel appel à projet en 2011 qui va nous permettre de créer peut-être d'autres unités pilotes d'oncogériatrie qui va permettre de couvrir le territoire national et de améliorer peut-être effectivement cette prise en charge des sujets âgés dans tous les territoires, tout le territoire national. Pour sensibiliser davantage l'ensemble des services, améliorer le partenariat des spécialistes et faire davantage participer les médecins traitants à cette prise de décision et les accompagner, ces patients qui sont en difficulté et qui rentrent au domicile, fragilisés parfois par les traitements. Je pense que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez de contact avec les généralistes et ça reste assez compliqué. Donc voilà, je voulais vous présenter cette organisation nationales et en particulier celle de Bordeaux. Merci.
Donc un problème qui se pose évidemment quand on veut prendre en charge et traiter les cancers des personnes les plus âgées, on va dire, c'est de pouvoir évaluer le mieux possible quelles sont les implications qui vont survenir, et ce n'est pas toujours évident. Alors évidemment, je vous rappelle juste simplement l'espérance de vie à la naissance actuelle et celle qui est projetée dans les années 2030, en particulier dans les pays à haut revenu. Vous voyez que les filles vont atteindre 85 ans bientôt d'espérance de vie à la naissance et les hommes se rapprochent de plus en plus de 80 ans. Donc ça, c'est très optimistique, comme on pourrait dire. Et l'envers de la médaille, c'est que quand même, comme jusqu'à présent, on finit toujours par mourir, vous voyez que dans la tranche d'âge des 80 ans et plus, on va avoir un accroissement absolument colossal de la mortalité jusqu'en dans les années 2030. Évidemment, nous, gériatres, on s'occupe de cette frange de personnes qui sont dans ces eaux-là. Et la question est difficile de savoir si et jusqu'à quel point on peut mettre en place des traitements qui sont à la fois coûteux, difficile parfois à supporter, et l'évaluation du bénéfice-risque devient de plus en plus difficile, vous l'imaginez bien, dans ces tranches d'âge. Alors je voudrais vous montrer un petit peu quels sont les outils dont on peut se servir pour évaluer au mieux à la fois l'espérance de vie des personnes qui sont déjà arrivées à un âge important, et puis en fonction de leur état de santé dans un deuxième temps. Donc on peut utiliser cet index qu'on appelle l'index de Lee, qui a été validé dans une population générale, quelles que soient les pathologies des personnes, et qui vous permet de prédire, en quelque sorte, la mortalité dans les 4 ans qui viennent. Donc vous voyez bien évidemment que l'âge a un poids très important, ainsi que le sexe, comme toujours, et puis ensuite les comorbidités, qui sont évaluées d'une manière très, très simpliste. Hein. Mais à la fin des fins, vous avez un score qui est très facile à faire, hein, et qui va vous dire que si vous êtes supérieur à 14, eh bien vous avez 64% de risque d'être mort dans les 4 ans qui viennent. Donc ça peut être un premier indice pour réfléchir sur une décision de traitement. Ensuite, quand on fait des études de cohorte ou des études de patients en fonction des traitements qu'on leur donne et des résultats qu'on obtient, eh bien on aime bien appliquer cet index qui est l'index de Charlson, qui est un index de comorbidité en fait, ce qui va nous permettre ensuite de comparer des populations en fonction de leur niveau de comorbidité. Voilà. Cet index, il a été construit dans une population de médecine interne, il a été validé ensuite dans plusieurs cohortes en oncologie, notamment dans le cancer du sein. Et vous voyez que là aussi, c'est très simpliste, hein. On liste une grande liste de comorbidités avec des scores qui sont pondérés en fonction de la gravité de la comorbidité, et à la fin des fins, ça vous donne un total qui lui-même peut être pondéré par l'âge. Et encore une fois, évidemment, l'âge ne joue pas en notre faveur, chacun le sait, et qui va prédire soit la mortalité, soit des complications post-opératoires, soit des entrées en institution. Enfin, on peut l'utiliser pour prédire des tas de choses, et c'est très intéressant. En oncologie, on aime bien aussi utiliser cet index qu'on appelle le CIRS-G, c'est sa version gériatrique, qui est un petit peu plus difficile à coder parce qu'il demande de bien vraiment là connaître le patient. Et en particulier, vous voyez qu'on va coder non seulement une liste de comorbidités, mais en face, la gravité des comorbidités, entre 0 et 4. Donc il y a un petit manuel qui permet de coder correctement. Et c'est toujours pareil, ça vous donne un score, et ce score va pouvoir être prédictif d'un certain nombre de choses. Maladies donc chroniques des sujets âgés, vous les connaissez tous. Bien sûr, tout ce qui est cardiovasculaire, hein, qui est vraiment la toile de fond. Et ensuite, les deux grandes pathologies auxquelles on se trouve à faire face quand on est gériatre, c'est l'Alzheimer et tous les types de démence, et le cancer. Voilà. Donc si on met le terrain cardiovasculaire, l'Alzheimer et le cancer, on a quasiment tout. Le diabète ne représente que 20% et pose un peu moins de problèmes quand même. Alors une réflexion qui est hautement intéressante à partir du moment où on sait que les comorbidités se surajoutent et sont souvent présentes, c'est de savoir quel va être le poids d'une comorbidité sur une autre. Est-ce que ça joue? Et vous voyez que dans cette étude, malheureusement il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dessus, mais c'est un sujet de réflexion qui est vraiment très, très pertinent actuellement. Vous voyez que dans cette étude, on a regardé quelle était l'influence d'avoir une démence diagnostiquée sur la mortalité de patients chez qui on trouvait un cancer. Autrement dit, la mortalité à 6 mois après le diagnostic du cancer, vous voyez, était beaucoup plus importante chez les patients déments que chez les patients non déments. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les patients mouraient de causes qui n'étaient pas liées au cancer, puisqu'il y avait moins de 17% de la mortalité qui était liée au fait que le cancer était à un stade avancé et donc responsable de cette mortalité. Donc, premier point très important, ça veut dire que les patients chez qui on diagnostique un cancer alors qu'on a déjà diagnostiqué une démence auparavant, eh bien, vont mourir plus probablement d'autres complications que de celles de leur cancer. Et pour ces 3 cancers étudiés qui étaient le sein, le côlon et la prostate, l'existence donc d'une démence préexistante chez le patient atténue complètement la relation qui existe normalement entre le stade du cancer et la mortalité. Donc ça, il faut être bien bien conscient de ça, et c'est pour ça que Cécile a dit tout à l'heure qu'on arrivait à diagnostiquer des démences qui étaient inconnues, et pour nous c'est important de pouvoir le faire parce que ça va être un élément de réflexion dans la décision thérapeutique très important. Alors maintenant, on a dit aussi qu'il fallait dépister les sujets fragiles. Donc les fragiles n'ont pas forcément encore de comorbidité. Mais ce sont des personnes qui ont l'air d'être très bien, quel que soit leur âge, mais dont on sait qu'au cours d'un traitement ou d'une intervention chirurgicale, ils risquent de, tout d'un coup, ne plus aller bien du tout, et parfois on ne l'a pas vu venir. Donc nous, notre boulot, ça va être essayer de voir comment, justement, on peut prévenir ça. Donc cette fragilité, actuellement, elle est définie comme étant un syndrome très multifactoriel et qui correspond en fait à une réduction des réserves physiologiques de l'organisme et de la capacité à résister au stress. Le cancer est un stress, la chirurgie est un stress, la chimio est un stress, tout est stress quand on commence à être malade. Cette fragilité, elle est associée à l'âge, très clairement. Elle est donc plus fréquente chez les sujets âgés, elle est en relation avec la morbidité, quelle qu'elle soit, et la mortalité. Tout ceci a été très bien décrit et validé dans des grandes cohortes de patients. Et vous voyez ici cette photo sur la gauche de votre écran que j'aime beaucoup. C'est une petite vieille dame que j'ai rencontrée sur un marché à Mexico qui mendiait, qui était probablement très âgée, avec des difficultés à la marche, toute petite, toute tassée, assez maigre, qui présente tous les critères de la fragilité d'une personne âgée. Alors il y a 2 grandes approches de la fragilité actuellement. La première, c'est celle qu'on appelle le phénotype fragile, c'est-à-dire que quand vous voyez la personne, vous vous dites « oulala, celle-là, elle est fragile » ou « celui-là », enfin, c'est plus souvent des femmes. Et donc, ce phénotype fragile comporte un certain nombre de critères qui sont la perte de poids, la fatigue, la diminution de l'activité physique du fait de la fatigue, même parfois l'épuisement et un ralentissement global et notamment la lenteur de la marche. Ce phénotype fragile, ces critères, sont indépendants de l'existence de maladies. Hein. Ce n'est pas forcément des gens qui ont des maladies cardiovasculaires ou du diabète, etc. Pas forcément. Ils peuvent n'avoir que ça. Puis une deuxième approche, c'est de dire, bon, d'accord, le phénotype fragile, très bien, mais on va essayer de voir aussi quels sont les déficits qu'ont la personne et puis les comorbidités. Puis on va faire un cumul de tout ça et on va définir un index de fragilité. Donc c'est une autre manière d'aborder les choses. Actuellement, on réfléchit plus sur le phénotype fragile, dont on sait que la prévalence varie entre 4 et 16% dans les différentes cohortes de personnes âgées qui ont été étudiées, qu'il est très clairement lié au grand âge, après 85 ans, beaucoup plus fréquent chez les femmes, parfois associé à des maladies chroniques, et en tout cas associé à une plus mauvaise santé subjective, c'est-à-dire que les gens disent qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ne vont pas bien, alors que parfois il n'y a pas de maladies qui peuvent expliquer ça. Et en tout cas, c'est prédicteur de perte d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne et les activités instrumentales de la vie quotidienne. Alors là, c'est juste pour vous dire qu'on a des critères de fragilité avec des normes chez les hommes, chez les femmes, en ce qui concerne la perte de poids, la vitesse de marche, la force de préhension, le niveau d'activité physique quotidien et la fatigue mesurée sur une échelle. Donc, ça n'a aucun intérêt, sauf que de dire qu'on peut vraiment mesurer tout ça pour dire que le patient est fragile ou pas. Et une fois qu'on a ces mesures, on peut les appliquer sur des grandes cohortes de sujets suivis, comme celle que vous voyez là. Et à ce moment-là, eh bien, on se rend compte que le phénotype fragile eh bien, va être présent dans 12%, hein, par exemple, chez Rockwood, de cette cohorte de femmes, et va prédire l'entrée en institution, la mort et une mauvaise santé subjective, les comorbidités, l'isolement social, etc. Voyez. Il y a d'autres critères de fragilité qui ne se voient pas à l'œil nu, parce que ce sont des critères biologiques, et qui sont le fait d'avoir un taux de lymphocytes bas, qui est souvent le témoin d'un mauvais état nutritionnel, des taux d'hormones intestinales, la leptine, la gréline, qui sont plus bas que chez les autres. Alors là, c'est vraiment du domaine de la recherche. La diminution de la fonction rénale, ça on va en reparler parce que c'est très important, très clinique. Le fait d'avoir des troubles cognitifs, même débutants, même si on n'est pas encore arrivé au stade de démence, l'isolement social et les faibles revenus. Alors je vais insister sur ce point qui préoccupe toujours beaucoup tout le monde. Et pour vous rappeler que dans la grande cohorte de l'essai NAINS américain, vous voyez que dans les populations de plus de 70 ans, eh bien à peu près un quart de la population de plus de 70 ans a une fonction rénale diminuée, c'est-à-dire une clairance de la créatinine entre 30 et 60 millilitres minute, ce qui est étiqueté comme insuffisance rénale modérée. Là, c'était mesuré par la formule MDRD. Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, c'est très fréquent chez les personnes âgées, puisqu'il y a un bon quart. Maintenant, est-ce qu'il y a un retentissement quelconque ? Alors, voilà une étude épidémiologique très intéressante des Hollandais, Roderick, et qui a regardé, dans une très grande cohorte de patients, à partir de quand survenait l'anémie, qui est la complication la plus connue de l'insuffisance rénale chronique, les difficultés dans l'activité de la vie quotidienne, la fatigue avec la diminution de l'activité physique, etc. Et donc, il a remarqué qu'à partir d'une clairance de la créatinine inférieure à 45 ml par minute, eh bien, par exemple, les hommes avaient trois fois plus de risques d'avoir une anémie, et les femmes une fois et demi plus, que lorsque la clairance était supérieure à 45 ml par minute. Quand vous tombez en dessous de 30 ml par minute, vous voyez que les hommes ont 8 fois plus de risques d'être anémiques et les femmes 6 fois plus quasiment, etc. De même pour la perte des activités de la vie quotidienne, de même pour l'activité physique, etc. Donc ce résultat est très intéressant parce que comme c'est vrai que la diminution de la fonction rénale est communément partagée par la population âgée, on a tendance à dire « bon, ben, ils ont tous ça, donc voilà, on ne s'en occupe pas ». Mais en fait, si, il faut s'en occuper. Lorsque la clairance est inférieure à 45 millilitres minute, vous avez donc des personnes âgées qui ont des difficultés dans les activités de la vie quotidienne, qui ont des difficultés à avoir une activité physique continue régulière, donc un risque de chute chez les femmes, de dépression aussi, d'anémie, d'augmentation du risque cardiovasculaire et de qualité de vie médiocre. Donc, le fait d'avoir une clairance inférieure à 45 millilitres par minute, quand c'est mesuré par la formule MDRD, c'est-à-dire qu'avec Cockcroft, on va plutôt être aux environs de 30, si vous voulez, millilitres par minute. Ça a réellement un impact et c'est un critère de fragilité. Juste pour vous remontrer, mais tout le monde le sait, à quel point l'anémie est un facteur indépendant de mortalité et de morbidité chez les personnes âgées et de complications comme les chutes, les entrées en institution, les hospitalisations. Donc ce phénotype fragile, il est plus fréquent chez les femmes. Or, vous savez que les femmes sont celles qui vivent plus que les hommes. Donc, il ne prédit la mortalité plutôt chez les hommes, mais pas tellement chez les femmes. Par contre, chez les femmes, il prédit la survenue d'événements médicaux. L'approche des déficits cumulés, c'est la deuxième manière de voir les choses. En fait, bon, c'est une autre façon de raisonner. On établit une liste de variables qui sont très nombreuses, qui concernent les pathologies, le mode de vie, les symptômes ressentis, la perte d'autonomie. Et puis, ce sont des variables donc, qui sont très sensibles biologiquement, qu'on peut mesurer, qui augmentent avec l'âge, qui ne sont pas non plus trop répandues, parce que, bon, par exemple, la presbytie, comme tout le monde l'est, ça n'a aucun intérêt. Et puis, on va faire un rapport entre le nombre de ces variables pathologiques sur l'ensemble des variables, et on va avoir un index de fragilité. Voilà un exemple de ces déficits individuels qui ont été définis. Vous voyez que ça va de la restriction des activités dans la vie quotidienne jusqu'à l'ulcère digestif, en passant par les troubles émotionnels ou les troubles de la mémoire. Il y a vraiment de tout. Et c'est une approche, moi, que j'aime beaucoup, mais qui, pour l'instant, n'est pas trop à la mode. Alors, si on utilise cet index de fragilité, mettons pour un seuil à 0,25, eh bien, dans les populations des cohortes, environ 23% des personnes sont déterminées comme étant fragiles. En conclusion, donc, je dirais qu'il est très important, comme vous le voyez, d'évaluer l'état de ces patients âgés pour détecter justement cette fragilité. Et puis, chez ceux dont la fragilité a été dépistée, leur faire faire une évaluation gérontologique peut-être plus poussée. Et pour détecter cette fragilité, eh bien, on a mis en place sur Bordeaux un outil de screening dont Pierre Soubeyran va vous parler, car nous sommes actuellement dans une nécessité, comme l'a dit Cécile, d'économiser nos forces de part et d'autre. Le nombre de personnes âgées atteintes de cancer est considérable dans la région. Juste pour vous fixer un point, au CHU de Bordeaux, 20% des patients qui sont présentés en RCP ont plus de 75 ans. 20% au CHU de Bordeaux, 34% dans le Lot et Garonne, 30% dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, les personnes âgées sont prises en considération, elles sont présentées en RCP, ça représente une quantité très importante des patients passés en RCP. Donc, ces patients passés en RCP, il va falloir ensuite réfléchir sur le bénéfice-risque du traitement, et c'est pour cela, comme on ne peut pas tous les voir, qu'il va falloir mettre en place un outil de dépistage de la fragilité pour voir ceux qui auront vraiment besoin ensuite d'une évaluation gérontologique. Je vous remercie.
Voilà, donc ce que vous a présenté Muriel, clairement vous a mis en évidence la population qui nous intéresse, parce que clairement dans les patients âgés de plus de 65, 70, 75, peu importe le seuil, il y a un certain nombre de patients qui sont en bon état et qu'il faut traiter normalement. La difficulté, c'est de trouver ceux qui vont poser des problèmes, et surtout pas tellement ceux qui sont déjà fragiles et qu'on a déjà repérés parce qu'ils se voient d'emblée, enfin ceux qui sont déjà altérés, mais ceux qui ont l'air bien. Ça nous a amené assez rapidement à nous poser la question d'outils qui nous permettraient de sélectionner ces patients de la façon la plus rigoureuse possible, sachant que l'objectif n'est pas d'avoir quelques médecins hyper spécialisés dans ce genre de choses dans des endroits bien déterminés, mais d'avoir plutôt une compétence qu'on peut élargir le plus possible pour qu'elle soit au plus proche des patients. Donc on a voulu évoluer dans les outils pour essayer de compenser cette hétérogénéité. Bien sûr, il existait déjà toutes les connaissances cliniques, des éléments biologiques dont on se sert quotidiennement, mais il y a aussi les outils gériatriques. Ces outils gériatriques, ils étaient jusqu'il y a quelques années essentiellement utilisés en gériatrie dans des populations de patients généralement de plus de 85 ans. La population cible qui nous concerne, nous, celle à partir de l'âge duquel on commence à avoir des problèmes, ça va varier selon les types de traitements et les types de cancers, mais c'est au-delà de 70 ans, et en cancérologie, on a plutôt des 70-85 ans, même si ça évolue justement avec l'évolution de l'oncogériatrie. Donc ce sont ces outils qu'on a utilisés dans un premier temps. On avait monté dans la région, donc en Aquitaine, tout centre d'Aquitaine, il y a 12 centres qui ont participé, que ce soit du privé, du public, CHG, CHU ou centre. On a pris une série de patients de plus de 70 ans et qui étaient en indication de chimiothérapie de première ligne. Tout type de cancer, en l'occurrence pas le cancer du sein, qui au moment où on a lancé cette étude était plutôt pour les patients âgés en indication d'hormonothérapie que de chimiothérapie, même si ça a pas mal évolué depuis. Donc on a créé cette population et notre interrogation, c'était de rechercher des éléments d'aide à la décision médicale avant une chimiothérapie. Donc on a d'abord réfléchi, comme pour tout projet de recherche clinique, et on a cherché à poser quels étaient les éléments qui pouvaient influer notre décision. On a retenu trois choses. La première, c'est le risque pour le patient de mourir précocement. C'est-à-dire que si un patient a un risque élevé de mourir dans les 6 mois, évident qu'on peut se poser la question de l'intérêt de lui infliger une chimiothérapie avec une toxicité. Le rapport qualité-quantité de vie là, devient éventuellement pas très très intéressant, puisque le temps qui lui reste à vivre risque d'être de la chimiothérapie et des toxicités. Premier élément. Deuxième élément, le risque d'être hospitalisé pour toxicité. Pour la bonne raison qu'on sait que chez des patients âgés et a fortiori fragiles, si on les met au lit, on n'est pas toujours sûr de les relever. Et quand ils commencent une complication, souvent, même si on la rattrape, ils vont en faire d'autres après. Et puis troisième élément, qui est corollaire du deuxième, c'est la perte d'autonomie. Un patient autonome, si avec la chimiothérapie, on le met à genoux, on le met au lit, là aussi, je pense qu'on n'est pas gagnant dans l'affaire. Et donc, ça, c'est un élément délétère et c'est également lié à la survie. Donc on a choisi d'essayer de prédire, de chercher parmi les outils dont on disposait quelques éléments prédictifs. L'étude, je vous la décris très simplement, en fait on a laissé les oncologues médicaux faire leur travail, c'est-à-dire prendre en charge leurs patients tels qu'ils le font actuellement, c'est-à-dire sur la base de l'index d'autonomie, le performance status, qui est un critère fort pour nous, tant sur les chances de réponse à la chimio que sur les risques de toxicité, mais également fonction rénale, fonction cardiaque, hémogramme et comorbidité. Et ils ont défini leur traitement standard. Et en parallèle, on a fait une évaluation gériatrique qui a été séquentielle avant traitement, avant le deuxième cycle, avant le quatrième et en fin de chimio. Je vous amène directement sur les résultats pour vous montrer qu'on a trouvé un certain nombre de prédicteurs qui ont été confrontés à tous les outils de cancérologie classique. C'est-à-dire qu'on, certes, vous voyez la première colonne décède en moins de 6 mois, on retrouve que le facteur le plus fort, c'est l'extension. Bon, je pense qu'on n'a rien inventé, c'est assez logique, mais c'est en même temps rassurant. Si on ne l'avait pas trouvé, je pense que je me serais inquiété. On montre qu'un patient qui est métastatique ou qui a une tumeur avancée a plus de chances de mourir dans les 6 mois, certes. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait de mourir dans les 6 mois. Ce qu'on montre par contre, c'est malgré la puissance de ce facteur, deux critères gériatriques qui sont le MNA pour Mini Nutritional Assessment, donc l'évaluation de la nutrition par ce questionnaire, ou l'évaluation du risque de chute par le test du Get Up and Go, que vous connaissez sûrement aussi, apporte beaucoup puisqu'il augmente le risque par 2 chacun. Pour vous donner une image, un patient qui a un test MNA normal, c'est-à-dire supérieur à 23,5, a dans cette série de l'ordre de 10% de mourir dans les 6 mois. Un patient qui est dénutri selon ce questionnaire, c'est-à-dire avec un score inférieur à 17, a un risque de 40%. Donc clairement, il y a quelque chose. On peut le voir de deux façons. On peut se dire, bon, c'est un fait et il vaut mieux pas trop traiter ces patients-là parce qu'on va leur apporter plus d'inconvénients que d'avantages. Mais on peut le voir aussi différemment et on peut se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas intervenir sur la nutrition, éventuellement qu'on a le temps en commençant tôt, pour essayer de les remettre en meilleure situation, pour mieux tolérer la chimiothérapie et pas avoir ce sur-risque, qui est en fait un sur-risque de mourir de toxicité probablement. Sur le deuxième facteur, c'est-à-dire le risque d'être hospitalisé à cause d'une toxicité, là on a retrouvé des facteurs un peu plus complexes à interpréter. Le rôle du clinicien, c'est-à-dire que les réductions de chimiothérapie faites par le clinicien, ça c'est quand même un élément rassurant, ça marche très bien. C'est-à-dire que dans la population le plus à risque, c'est-à-dire les patients fragiles, tels qu'on les identifie avec des outils d'oncologue, il y a 2 fois moins de risque d'hospitalisation pour toxicité, ce qui montre bien que les réductions de chimiothérapie, ça marche quand même. Mais le facteur le plus intéressant, je pense, c'est que de nouveau, le MNA a un rôle à jouer. C'est corollaire de l'observation précédente. Et puis le dernier, le risque de perte d'autonomie. On parlait des discussions qu'on a avec le patient quand on va lui annoncer le traitement. En clair, quand on fait, entre guillemets, le marché avec le patient au départ, l'idée, c'est quand même quand on va le traiter pour un cancer alors qu'il est âgé, l'objectif est d'essayer de le maintenir à domicile, chez lui et autonome. Si c'est pour le mettre au lit, évident que les patients ne vont pas être d'accord. Donc c'est une dimension qu'on a intuitivement facilement dans nos décisions. Et là, les facteurs qui sortent me semblent assez cohérents. Les IADL sont les activités instrumentales de la vie quotidienne. Un patient qui est quelque chose qui a atterri relativement précocement, quand les IADL sont perturbés, ces patients ont plus de chances de se détériorer sur les activités plus fondamentales des activités de la vie quotidienne des ADL. Et l'autre, c'est le GDS-15, c'est le Geriatric Depression Scale, c'est-à-dire le moral. Les patients dépressifs ont plus de risques de perdre leur autonomie, ce qu'on peut comprendre aussi. Et ce qu'on avait observé dans les différentes études, pas celle-là mais d'autres, c'est que les patients fragiles étaient très souvent dépressifs, du moins si on en croit la GDS, parce que la GDS ne fait pas un diagnostic. Donc tout ça, ça nous a amené finalement à démontrer quelque chose qui était un peu notre conviction à l'origine, mais encore fallait-il le prouver dans le domaine de la cancérologie et de patients en meilleur état, c'est que ces outils peuvent être tout à fait utiles à l'oncologue. Certes, mais vu la fréquence des cancers chez des patients âgés, on arrivait à un problème de surcharge d'activité des gériatres en général. Donc il fallait trouver une solution et on arrivait vite à l'idée qu'il faut créer un dépistage. On était plusieurs équipes dans le monde à travailler sur la notion d'un dépistage. Nous, on avait choisi un outil qui avait été publié par l'AXE il y a quelques années, qui est finalement pas bon du tout. D'autres travaillaient sur d'autres hypothèses. Et en fait, l'Institut du cancer a mis un peu un holà en disant « Vous êtes gentils, mes petits amis, mais vous allez arriver dans 4-5 ans, vous allez tous nous dire que c'est votre recette qui est la meilleure, et il va falloir encore passer 5 ans pour choisir laquelle est réellement la bonne. On n'aura pas avancé. Bon, je voudrais qu'on avance. » Donc que tous les Français à qui on a donné des moyens, en gros les UPCOG, réfléchissent et définissent une attitude commune. Et en fait, il a fait un appel d'offres, il a dit « je mets tant d'argent sur la table et puis faites-moi des propositions ». Et il a pris un jury international qui a choisi ce qui lui semblait cohérent. Et en l'occurrence, c'est celle de Bordeaux qui a été choisie. Bon, bon, on est content. Mais c'est sûrement parce que c'était la meilleure. Donc on a défini un outil de dépistage dont je vais vous parler, qu'on a appelé le G8. Il s'est basé essentiellement sur l'étude que je viens de vous présenter, c'est-à-dire sur le fait que finalement ce test nutritionnel ressort beaucoup. Alors il ressort beaucoup pourquoi ? Il ressort beaucoup pour peut-être deux raisons. La première, c'est que la nutrition, c'est très important, la nutrition. Ça, on le sait en cancérologie, c'est déjà démontré. Ça, on peut s'appuyer dessus. La deuxième chose, c'est qu'en fait, quand on regarde le questionnaire MNA, qui est un questionnaire qui a été inventé à Toulouse par l'unité de Bruno Vélas, mais on voit qu'en fait, il n'étudie pas que la nutrition. Et il y a beaucoup de questions qui sont transversales et qui concernent les autres domaines gériatriques. Alors, je vous l'ai mis en grand, je ne sais pas si vous arrivez à lire les questions. Après, le MNA, c'est un questionnaire qui est totalement disponible sur Internet. Vous tapez MNA et vous allez arriver directement sur ce fichier. Mais vous voyez qu'il teste aussi, par exemple, la question C à gauche, motricité. Il teste les problèmes neuropsychologiques, la question F. Il teste le nombre de médicaments. Il teste en P la santé subjective, dont on sait qu'elle a une valeur forte sur les risques de mortalité des patients. Donc c'est un questionnaire qui est finalement assez transversal. Et ça nous a amené à réfléchir sur en fait comment condenser ce qui nous semblait le plus utile dans ce questionnaire pour faire un test de dépistage couvrant les principales dimensions gériatriques. On a choisi 8 questions, dont 3 de nutrition, perte d'appétit, perte de poids et index de masse corporelle, une sur la motricité, est-ce que le patient sort du domicile, ou est-ce qu'il est autonome à l'intérieur simplement, ou est-ce qu'il passe son temps entre le lit et le fauteuil, une question sur les problèmes neuropsychologiques entre démence et dépression, une question sur le nombre de médicaments, une question sur la santé subjective qui nous semblait importante. Et enfin, on a quand même introduit l'âge, puisque la relation entre l'âge et le risque de fragilité est quand même quelque chose de connu et que tous ces tests ne résumeront peut-être pas dans l'état actuel des choses. Et puis les statisticiens nous ont dit, eh bien, dites-nous pour chacune de ces questions avec quel domaine gériatrique elle doit corréler. Donc on a formulé des hypothèses avec Muriel, et puis on a demandé aux statisticiens de regarder. Et en fait, la plupart de nos hypothèses étaient vérifiées. Bon, ces outils gériatriques sont des outils de cliniciens. Je pense que vous en employez certains de ces outils. Quand on les utilise, on les comprend tout de suite, quand on voit de quoi on parle. Et donc, on a vu que les questions de nutrition corrélaient très bien avec le MNA, que les questions de motricité corrélaient avec l'ADL et le Get Up and Go, que les questions médicaments avec les comorbidités, santé subjective avec ADL, GDS15, etc. Donc, on a, d'une certaine façon, validé les choses. Et puis après, on s'est mis dans la position de dire il faut qu'on prédise ceux qui vont avoir une évaluation gériatrique anormal. Donc par un petit test, essayer d'évaluer, de repérer la population des patients qui auront au moins un test anormal. Ça s'évalue par des courbes ROC. Donc plus ça monte vers le coin en haut à gauche, mieux c'est. Donc là on a une bonne courbe, qui a une R sous la courbe de 0,80, c'est bien. Et on a pu définir cet outil avec un seuil. Il est anormal s'il est inférieur ou égal à 14, alors qu'il varie de 0 à 17. Et ça lui donne une sensibilité de détecter nos patients dits fragiles, selon ce critère, de l'ordre de 90%, avec une spécificité qui est correcte. Sachant que pour un outil de dépistage, on veut avant tout être sensible. On a donc monté, à la suite de ça qui faisait les hypothèses, on a proposé ça à l'INCa et c'est comme ça qu'on a été retenu. Et on a monté cette étude qui s'appelle « Oncodage ». On a défini très clairement ce qu'on voulait prédire, c'est-à-dire qu'on a pris les 7 échelles qui nous semblaient essentielles pour couvrir les dimensions gériatriques avec un seuil qui était le seuil standard de la littérature pour considérer qu'elles étaient anormales, en prenant plutôt un seuil bas pour plutôt repérer large que de laisser passer quelqu'un. Les patients ont été inclus, ont eu leur bilan oncologique et un bilan gériatrique parallèlement. Et l'étude s'est arrêtée après le bilan gériatrique. On a demandé par contre au gériatre de dire au terme de son évaluation s'il lui semblait nécessaire de poser un certain nombre d'indications, d'interventions gériatriques. nutritionnelle, modification des médicaments, kiné, aide à domicile, etc. etc. Mais l'étude s'arrêtait après, libre aux cliniciens de suivre ou non ces recommandations. Étude terminée, on a inclus un peu plus de 1600 patients. Elle est en cours d'analyse et elle sera présentée en juin. Elle a été présentée aux investigateurs avant-hier, les résultats. Je ne peux pas vous les donner, a priori. Enfin, ils vont dans le bon sens quand même. Juste pour vous donner quelques éléments de description de la population, on a une vraie population âgée, c'était plus de 70 ans, la moyenne c'est 78 et on va jusqu'à 98 ans. Bon, ça me semble bien pour une population qui a été recrutée essentiellement en oncologie. Il y a plus de femmes parce que là on a mis les cancers du sein qui représentent la moitié des cas en l'occurrence. On a des patients qui sont plutôt en bon état général, mais comme on l'attend sur une population de ce type, c'est-à-dire 76% performance status 0,1, c'est-à-dire autonome, capable de gérer sa vie normalement. 3-4, ils sont plutôt au lit et au fauteuil. 2, ils sont capables à peu près de se débrouiller à domicile, mais avec un peu d'aide. Et vous voyez différents types de cancers. Ce qui est intéressant à voir, puisqu'on est sur une population tout venant, donc celle que vous voyez au quotidien dès que vous voyez des patients âgés avec un cancer, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont certainement plus importants qu'on ne le croirait. Et notamment, on voit que 44% des patients ont des troubles nutritionnels, du moins selon le questionnaire MNA, qui est un questionnaire quand même assez solide et spécifique sujet âgé. Le 42% de comorbidité, ça je pense qu'on le sait, c'est pas une nouveauté, simplement c'est 42% de comorbidité sévère, c'est-à-dire une comorbidité de grade 3 ou 4, c'est des patients qui vont avoir une comorbidité qui est déséquilibrée ou difficile à équilibrer, une hypertension qui nécessite 3 médicaments par exemple. Les autres choses qu'on voyait assez fréquentes, c'est les IADL qui étaient fréquemment perturbées, donc les activités instrumentales qui sont des choses donc perturbées assez précocement, mais du style téléphoner, faire ses comptes, prendre ses médicaments, prendre le bus, il y en a 8 après les autres, faire le ménage, les courses, voilà, ça c'est des activités qui sont considérées plus féminines, c'est ça, du moins pour la population âgée, puisque bien entendu ça change beaucoup avec l'évolution. Cette évaluation est quand même relativement longue parce qu'il faut à peu près une heure pour la faire. Et on a trouvé 70 à 80% de la population avec au moins un questionnaire anormal. L'autre chose qui est importante, c'est que le gériatre a proposé chez 75% de ses patients des interventions à réaliser. 36% au niveau nutritionnel, 35% aide à domicile, 24% de modification de traitement, en général plutôt allègement du traitement, 20% de psychologue, etc. etc. Quelque part, comme pour des interventions comme la nutrition, on pourrait dire, mais l'oncologue, il est capable de le voir, il a des diététiciennes pour l'aider, il est capable de le voir, et quelque part, c'est vrai. Hein. Mais en pratique, quand on regarde les enquêtes de pratique, que ce soit en France ou dans les autres pays, c'est pas appliqué, c'est-à-dire qu'on voit les problèmes et l'oncologue il a tendance à être assez concentré sur son malade et son traitement, mais moins dans sa vision globale, peut-être plus dans sa vision spécifique. Et je pense que même si on fait des efforts dans ce sens-là, je pense que le gériatre apporte une dimension qualitative supplémentaire. Et pour appuyer ça, c'est-à-dire l'intérêt de ces interventions, je vous ramène à une étude de Madame Rubenstein, qui est une des grandes dames de la gériatrie mondiale, qui c'est un article du New England de 84, en population générale, pas en population de patients atteints de cancer, où on montrait que quand on faisait intervenir les gériatres, le risque de décès était quand même divisé par deux. Alors vous me direz, c'est pas en cancérologie, c'est en population générale. En cancérologie, on a juste une étude qui a été faite, qui est un peu dans le même contexte que les études que je viens de vous montrer et qui montre qu'en situation de cancer avancé, quand on fait intervenir une infirmière simplement pendant un mois à se préoccuper du patient, on arrive à avoir un bénéfice de survie que vous voyez sur les deux courbes du bas quand même. La courbe la plus bas, c'est les cancers avancés en prise en charge standard. La courbe un peu plus haut, c'est la courbe où on a fait un suivi, y compris gériatrique, mais un suivi des patients avec une infirmière qui a en gros repéré les problèmes et aiguillé les malades quand ils repéraient des problèmes. Donc je pense que c'est assez fort, et ça c'est en gériatrie encore tout à fait confirmé que si on fait de la bonne médecine avec l'aide des gériatres, on a un bénéfice en termes de survie chez les patients, comme vous voyez là, mais je ne rentre pas dans le détail. Toutes les interventions ne marchent pas, mais les interventions structurées telles que celles qu'on utilise dans une UPCOG marchent. Alors, en pratique, on peut avoir deux attitudes. L'outil, a priori, devrait être validé, il est simple. On peut avoir deux attitudes. La première, c'est celle-là. C'est on dépiste les patients avec le test et on dit ce patient est à risque et on travaille en faisant de la bonne médecine, en se préoccupant bien des patients. C'est l'attitude la plus simple, mais qu'on peut offrir bien sûr à tout le monde. La deuxième, c'est une attitude un peu plus sophistiquée, mais qui suppose de disposer d'un peu plus de moyens, c'est-à-dire d'introduire une deuxième étape qui va permettre d'affiner un peu les choses et de voir ceux pour lesquels réellement il faut faire intervenir le gériatre. On est toujours à essayer de rationaliser au maximum nos moyens qui sont malheureusement pas suffisants, je dirais, notamment quand on parle d'étendre tout ça à l'ensemble de la région. Et donc ça peut être une deuxième étape, une consultation des gériatres, ce que défendent certains des collègues de Muriel, discussion qu'on a eue avec Olivier Saint-Jean par exemple mardi. Ça peut être de ce qu'on appelle l'évaluation gériatrique standardisée, c'est-à-dire un certain nombre de questionnaires qu'on peut faire passer par une infirmière, ou ça peut être une évaluation infirmière peut-être un peu plus restreinte, enfin tout ça est à réfléchir, avec pour objectif que ce soit efficace et qu'on sélectionne une population qui vraiment va avoir besoin de cette prise en charge coordonnée, qui est forcément plus lourde et coûteuse de moyens, mais surtout qu'elle soit faisable et applicable le plus largement possible. Voilà, alors une partie de la réponse à ça, ce sont effectivement les UPCOG. On a la chance en France d'avoir des moyens. Ce ne sont pas des moyens qui sont suffisants pour les offrir à tous les patients. Ça se veut autant des moyens pour tester des nouvelles attitudes et pour les étendre sur les régions dont elles dépendent et les rendre faisables, c'est-à-dire pour essayer d'aider à rationaliser au mieux les moyens des patients. Voilà, je vous remercie.
Merci.